Ouais, ça enregistre. Donc, bienvenue au Hackerspace de Rouen. Ouais, Hackerspace Jeanne d'Arc. On est dans les locaux des chaînes inconnues.
On recommence?
Ouais, on le refait, puis peut-être que je couperai pas parce que ça m'amusera de le planter, en fait. C'est le montage. Bienvenue au Hackerspace Jeanne d'Arc de Rouen, et dans les locaux des chaînes inconnues. Et c'est parce que chacun ne cite pas, alors je me disais que je fais pas. Des
fois
pour. Ouais. C'est quand même sympa leur assaut.
Bah oui.
Alors aujourd'hui on est trois, il y a Pic, il y a moi et Bus Hey. T'as vu aujourd'hui, j'ai fait exprès de pas écorcher ton nom.
Attends, pseudo.
Et il y a moi et New York. Alors on vous parle de. Moebius fait sa chronique USA avec le procès de Aaron Swartz.
Oh putain, je suis en premier.
Ouais, t'es en premier. Ensuite, je vous fais un proof of concept que j'ai pas encore fait. Pic, qui est un passionné d'électronique, plus que développement, etc., nous va nous parler de ses projets en électronique, parce que le principe du Hackerspace est aussi un peu d'électronique. Voilà. Ensuite, Moebius High nous explique son concept de mallette, de grey mallette, enfin, je sais pas comment je le nommerais.
La mallette des Menninger, en fait, c'est pas une idée originale, c'est, ouais.
Et juste pour finir, éventuellement, on débattra sur l'actualité de l'IGN qui a refusé de libérer ses données. La rubrique USA et Aaron Swartz.
Ah oui, tiens, mais putain, mais j'ai pas sorti mes notes, moi.
Mais pour une fois, t'avais des notes.
Je peux faire sans, hein, certainement, mais bon.
Si j'en ai fait, il faut pas que ça serve à rien. Ouais. Bon, aujourd'hui, on enregistre quand même dans des conditions un peu précaires, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de micro qu'on aurait voulu, et du coup, c'est mon mini PC avec son micro intégré.
Puis on n'en a rien à foutre aussi, quoi.
Ouais, voilà.
Le DOJ, c'est-à-dire le Department of Justice américain, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de la Justice français, a enfin avoué que le procès intenté à Aaron Swartz parce qu'il a récupéré des fichiers du JSTOR. Donc ils ont donc avoué qu'il y avait un aspect politique dans ce procès-là. Pour rappeler rapidement, le DOJ n'a rien à voir normalement en théorie avec la politique. Il y a une séparation des pouvoirs qui est relativement importante aux États-Unis.
Oui, relativement, enfin théorique, hein.
Ouais, bah check and balances. En fait, il n'y a pas une réelle division des pouvoirs, mais chacun des pouvoirs se.
Ouais, j'aurais trop peur de dire des conneries là. Je sais plus comment ils sont élus les juges, etc. Enfin, oui, ils sont élus. Remarque.
En fait, il y a un contrôle de chacun des pouvoirs les uns envers les autres. Et normalement, pas d'interférence.
Normalement.
Voilà.
Ouais, c'est comme dans toute bonne démocratie, hein.
Ouais, voilà.
Alors, donc, un peu désolé pour leur sujet, un peu de culture générale, la séparation des pouvoirs, c'est une théorie de qui?
C'est pas une théorie, c'est.
C'est une théorie.
Non, c'est à la base, ça vient de ceux qui ont inventé la démocratie, c'est-à-dire les Grecs, pour qui le meilleur type de gouvernement, c'était la démocratie. Et c'était pas le.
Ah non, alors la séparation des pouvoirs, c'est bien après quand même.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que à la base, l'idée, c'est que à la base, pour les Grecs, et d'ailleurs c'est historiquement, le meilleur type de gouvernement, c'est une dictature dirigée par un homme éclairé, par un philosophe. Or, étant donné que le pouvoir absolu corrompt absolument, ce type de gouvernement théoriquement parfait n'existe pas. Donc, à leurs yeux, le type de gouvernement le plus perfectible qui est accessible aux hommes, c'est la démocratie. Or, donc, pour éviter d'avoir tout le pouvoir détenu soit par une caste, soit par aujourd'hui on dirait
un lobby,
il faut avoir une séparation des pouvoirs et faire en sorte que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir
cette idée-là, elle est vraiment introduite
au début de la Révolution.
Je cherche son nom depuis tout à l'heure, mais je l'arrive pas à retrouver. C'est un des guillotinés, c'est la de la Révolution.
Il y en a eu plein.
Robespierre.
Oui, c'est toujours genre. C'était pas Robespierre, mais c'est.
Danton. Là, Robespierre, c'est celui qui les a tous guillotinés.
Ah ouais, et donc Aaron Swartz, pour y revenir.
Non, moi là, j'allais plus sur des trucs politiques que Aaron Swartz, c'est. Bah, j'en ai déjà parlé, donc voilà. Moi, je voulais plutôt parler du Computer Fraud and Abuse Act, CFA. Et je voulais te décortiquer un peu parce que il y a des choses assez marrantes.
Ouais, je veux bien que tu
me critiques. Rien qu'en passant vite fait sur l'article Wikipédia qui parle de cette loi-là, grosso modo explique que, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été apportés à cet acte-là, notamment le Patriot Act, le ITREA, Identity Theft Enforcement and Restitution Act, qui est une loi qui est censée prémunir les gens contre un vol d'identité sur Internet. Donc voilà, sachant que le CFA en fait avait déjà une partie de son...
C'est quoi ça, c'est une institution, c'est une loi
de... C'est une loi, okay. Une loi qui a trait à la fraude sur ordinateur, les abus sur ordinateur. Donc sachant que le CFA en fait au départ avait déjà un truc, ne pas respecter les termes of service d'un site internet est un crime relevant de l'État fédéral.
Quand même, hein. Ouais. Imagine, ouais. Tu joues à un MMORPG en ligne et tu triches un petit peu sur un jeu en ligne. T'as pas respecté les CGU, c'est la FBI qui débarque chez toi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi pas, quoi. Alors, ensuite, normalement, c'est censé te protéger contre tout type de piratage, voilà, on est bien d'accord, c'est censé protéger les gens, tout ça.
Oh, oui, mais t'as un objet répressif.
Ouais, or, là-dedans, il y a un truc qui dit, à partir du moment où on t'a donné le mot de passe et l'autorisation d'utiliser le système de communication, l'ordinateur, faire RM-RF étoile, ça n'est pas punissable. À partir du moment où tu as l'utilisation de l'utiliser,
ouais.
Et que tu as les accès, t'as rien pété, tout pété, c'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, je te donne mon ordinateur, forcément, je vais pas expliquer. Tu supprimes pas slash, hein, s'il te plaît. Tu vois,
ouais.
Je te donne mon ordinateur.
Quelque part, c'est pas précisé. Comme ça, ils remettent aussi un peu la balle sur l'admin réseau qui est censé donner pile poil les bons droits. La personne à qui il ouvre les doigts. Enfin, ouais, dit comme ça, moi je trouve que... Ouais.
Bon, d'accord, admettons. Ouais. On continue.
Non, désolé.
On continue.
Mais l'admin à réseau a très peur, moi j'en suis un.
Alors, ne prenez pas vos mots là-dessus, mais c'est vrai, hein, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, sur l'article Wikipédia.
Mais c'est pas toi qui as écrit l'article.
Non, bien sûr. Si l'ordinateur n'appartient pas soit à une institution financière, soit au gouvernement américain, et si ça n'affecte pas le commerce intérieur et extérieur, c'est open bar. C'est-à-dire
si c'est donné libre.
Non. Non, là c'est bien précis, c'est institution financière, gouvernement. Si tu pirates le premier PU, c'est pas un problème.
Voilà, c'est ton problème à lui, il avait qu'à sécuriser son accès et mettre le parfait de notre office.
Encore une loi qui, une fois n'est pas coutume, protège les institutions financières et pas le reste. Alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose qui quand même protégeait, les mails des gens, quoi, non.
Oui, non, là aussi, c'est pareil, ça vient des États-Unis en plus. Hein, parce que ça,
là, on touche aussi au fait la conception de la légalité au niveau des... Je vais peut-être aller très loin, mais par exemple, dans les pays anglo-saxons, un truc que pour nous français nous paraît relativement ubuesque, pour employer le mot, parce que c'est le seul qui vient à l'esprit, dans le droit anglo-saxon, il existe le concept d'incitation au vol. C'est-à-dire, par exemple, ça existe aussi par exemple dans les droits germaniques ou des trucs comme ça. Si par exemple vous laissez votre voiture sur un parking et que vous laissez en évidence un objet et que vous faites fracturer votre voiture pour avoir volé cet objet, théoriquement vous êtes donc le voleur est punissable, mais vous-même vous êtes aussi punissable parce que vous avez incité le voleur à vous voler. Et ça, dans le droit français, c'est quelque chose qui existe. Théoriquement, ça existe. Mais c'est pratiquement jamais employé.
Dans le crime, à la rigueur, et encore.
Dans le droit anglo-saxon, c'est connu, c'est
parti. Il faut faire une sorte de délit des crimes.
Là, on va revenir sur un débat qui est déjà.
Oui, la lunette en jubette qui s'est dégelée. C'est ça. Est-ce qu'elle a incité au viol, justement, et pas au vol?
Voilà, c'est.
Non, ça craint comme moi, quoi.
Oui, quelque part, ça craint, oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Pour nous, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, mais c'est aussi l'idée de la base.
Et moi, c'est pas parce que j'ai fermé la télé chez moi que n'importe qui peut rentrer, quoi. Enfin,
c'est ça. Voilà. Pour toi, ça te. Ouais. Et voilà, par exemple, moi, je sais que dans certains pays, c'est quelque chose. Si vous allez devant les flics et que vous commencez comme ça, le flic va vous regarder en vous disant que vous, vous êtes en partie coupable.
Pour la petite anecdote à la con, désolé, c'est un peu hors sujet.
Hein. Bah, on est pas mal dans le hors sujet déjà.
Oui, non, c'est pas grave, c'est du truc. Moi, j'ai vécu une tentative de cambriolage, sauf que ma porte était ouverte, hein, donc ce con de cambrioleur, il a fermé le verrou. C'est vrai en plus. C'est à 3h du matin, j'avais, ça a fini par me réveiller parce que j'avais un studio. Hein. C'était les schlang-schlang dans le verrou et je ferme jamais en fait mon verrou. Mmh. Et à un moment, j'ai bien entendu faire un tour, le verrou. Donc là, je suis allé, j'ai ouvert au mec, j'ai dit oui, vous êtes trompé d'étage. Hein. Mais le mec avait réussi à. Oui, c'est vrai. Et le mec avait réussi à faire un tour de mon verrou. Il a fermé le verrou et je l'ai ouvert. Il m'a grangé, il s'est rentré.
C'est un voleur consciencieux.
Alors avant de passer à la suite, je me permets juste un truc, je suis désolé, le micro est sur le pack de bière, donc je vais faire un peu de bruit. Pour aller récupérer une bière.
Ah tiens, bah pendant deux.
On prend en trois. Un plein.
Alors, sérieux. Alors la suite, c'est moi qui devais vous expliquer le proof of concept que j'ai pas encore fait parce que j'étais en train de commencer. Donc l'idée c'était simple, je me disais, ça revient ce que vous expliquerez à moi juste après, c'était d'espionner un peu l'identifiant des gens, etc., dans leur vie privée, parce que c'est amusant. L'idée c'était tout simplement d'imiter un des portails captifs, genre free Wi-Fi ou SFR, je sais plus comment il s'appelle exactement.
Et à ce moment, je digresse en disant, nous sommes des gentils pirates.
Oui, nous sommes des gentils. Non, je veux faire un proof of concept, si je le fais. Donc c'est laisser un wifi ouvert avec le nom d'un grand wifi public, voilà, je peux se comprendre, c'est trouvé free wifi, hein. et une imitation de la page. Mmh. Et quand ils s'authentifieront, je leur mettrai « Ah, je vous ai bien eu », enfin, ou une connerie comme ça. Et c'est juste pour voir si beaucoup de gens seront piégés par le truc.
À mon avis, 100%.
Voilà.
Et sauf mauvaise qualité du signal, en fait.
Ouais, c'est ça le truc. Peut-être qu'il faudra que j'emporte une borne, un wifi. Et pour faire ça, en fait, je pense que ça va être assez simple, hein. Je regarde un peu. Je vais mettre tout simplement un proxy avec Squid, un proxy transparent avec une EpiTable qui renvoie tout à le proxy, quoi, pour faire une imitation du portail captif. Donc un serveur DHCP, un serveur Apache et un Squid Guard pour parce que je suis plus à l'aise pour écrire les règles sur Guard que dans la compte de Squid directement. Mais je pense que c'est faisable assez facilement.
Change ton adresse mail.
Pourquoi?
Bah parce que on va savoir que...
C'est mon ordinateur là.
Ouais. Si jamais le type se dit, mais tu vois, c'est quoi ces conneries, il ne l'adresse pas, tu penses que c'est un petit peu...
C'est moyen, quoi. Oui, mais je suis allé refaire ma carte d'identité. Dernièrement, j'ai mis mon empreinte digitale, pas l'adresse mail.
Non, mais on sait jamais, les constructeurs,
ouais,
ils,
oui,
peuvent, ils peuvent capter. Ils peuvent...
Oui, des fois qu'il y a eu un peu.
Putain, comment t'as écrit Moebius?
Faites voir.
Ah, mais non, mais ça c'est de la prise de notes, quoi.
Ouais, ouh.
Voilà, donc je ferai le proof of concept la semaine prochaine, je pense le préparer, voilà, ou tout à l'heure si j'en ai encore un peu de temps.
Donc en gros, ce que tu veux faire, c'est un peu comme les gentils radars qui te disent juste la vitesse sans te donner de vilain... De vilaines à bande. Comment on dit, c'est les radars éducatifs, non?
Non, ça, je veux.
Bah voilà, bah toi tu veux faire un hack éducatif, pédagogique.
Et je sais pas comme si c'est pédagogique.
Comme ça, les gens qui vont se faire, tu leur mettras un message, attention, vous venez de faire grosse connerie. Faites plus gaffe, attention, à la prochaine fois.
Mais je suis pas sûr que je vais faire éducatif, je vais te laisser le truc transparent et enregistrer les données. Non, c'est sans l'utiliser, mais sans l'utiliser derrière, c'est juste par rapport à la curiosité, ah ouais, de voir si.
Donc tu fais le pédagogique. Par exemple, ou alors tu fais par exemple du phishing et pédagogique.
Sinon, j'en reste pas les données, hein, je peux les logs. Hein,
ça pourrait être intéressant, ça. Du phishing pédagogique. Les gens qui sont fichés, bah, tu leur dis, attention, ce que vous venez de faire, c'est très dangereux.
Oui. Voilà. Et pour la peine, je vous envoie une minute de Trollolo. J'ai oublié de regarder Trollolo.
C'est vrai que ça.
Ou,
c'est pire que Dead Cat.
Comment il s'appelait, le même internet, fallait envoyer le lien vers une vidéo,
Un peu comme les Give You Up.
Oui, oui, c'était ça.
De quoi?
Comment il s'appelait le chanteur?
Rick.
Oui, voilà. Ah, oui. Oui, voilà. Je vais faire un hack. Je vais les ricroller.
Ah oui, merci. Ouais, je vais faire ça. Au moment où ils sont identifiés, je les ricrolle. Voilà, on passe à la suite. C'était Pic qui nous explique ses projets en électronique, et notamment avec sa carte qui est là.
Bah, déjà, je vais peut-être présenter tout simplement le MSP430.
Ouais, on a parlé il y a deux semaines, mais je crois que t'as un peu plus
avancé. Ah, je sais pas.
Ouais,
ah,
oui, t'as un peu plus avancé dessus, je pense, pour la décrire.
Ouais, non, mais tu t'y connais certainement 100 fois plus que moi.
Et si tu utilises un peu d'Arduino, je pense que l'Arduino parle à beaucoup de monde.
Oui, bah, de toute façon. Alors. Donc, moi, je vais vous présenter la technologie MSP430. Alors. C'est un microprocesseur, non, pas microcontrôleur, il y a une différence. C'est que le microprocesseur a une unité de calcul intégrée que le microcontrôleur ne possède pas.
Ah oui, d'accord, donc j'avais fait une connerie errata pour la dernière fois.
Voilà, non mais c'est... étant donné qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, ce type de technologie, c'était que du microcontrôleur. Aujourd'hui, que tu peux avoir dans une petite pièce comme ça, du 16 ou du 25 MHz, avec plusieurs étages, différents timers, des convertisseurs numériques analogiques, là on peut clairement parler de microprocesseur. Alors, donc c'est du microprocesseur 8 bits, donc, pour finir sur la petite parenthèse.
Alors, si on compare avec une console, la Super NES,
non, la Super NES, elle fait du 16 bits, ouais, je pense.
Alors c'est la NES de quoi?
Voilà. Donc, alors, le concept du MSP, c'est la réponse de Texas Instruments à l'Arduino. Donc l'Arduino, c'est le concept de comme l'open source logiciel, et ben c'est ce qu'on appelle l'open hardware. Donc l'open hardware, c'est-à-dire une plaque, un schéma qui est ouvert à tout le monde, dont est dérivé un modèle, l'Arduino. L'intérêt, c'est que on a forcément sur une seule plaque, on a le processeur, les entrées-sorties pré-câblées et surtout le programmeur intégré. Ici, l'intérêt du programmeur du MSP, c'est que il est relativement facile de le débrancher pour l'utiliser comme programmeur pour une autre source. Donc, par exemple, on peut utiliser la plaque du MSP comme système un peu différemment de l'Arduino, où la plupart des gens utilisent l'Arduino tel quel, c'est-à-dire le mettre dans un robot quoi que ce soit. Le MSP, on peut l'utiliser plutôt comme dans un milieu un peu professionnel, comme une plaque de prototypage. Et ensuite, on fait sa plaque définitive et on peut réutiliser le programmeur du
MSP. Le datasheet, enfin, le programmeur se démonte, je
crois. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit truc, bon, on peut pas vraiment y aller au ciseau, mais on peut l'enlever, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait sur Internet, pour se faire un programmeur JTAG facile à utiliser.
Mais c'est peut-être le côté sympa du...
Alors, le MSP, donc, je vous ai parlé du Arduino, le nom de la plateforme de Texas Instruments autour du MSP, c'est ce qu'on appelle le Launchpad. Alors, le Launchpad, celui que j'ai entre les mains, c'est le Launchpad de base, le MSP430 Launchpad, Value Line. Il existe 4 types de Launchpad. Alors, il existe un type avec le modèle de MSP tel qu'on l'a là. Donc, ça va être un MSP 14 ou 20 pins. Après, il existe un autre type de MSP, le FR Launchpad. Donc, là, ce sera un MSP plus grosse taille, environ 60 pins avec il y aura de la RAM. En fait, l'intérêt du FR Launchpad, c'est que il y a un type de RAM bien précis de mémoire qu'on peut utiliser et qui est aussi très basse consommation. Donc l'intérêt du MSP, c'est que c'est de lit de
matériel.
Ça va être du 3.3 V, voire du 1.8 V. Et dans ce cas-là, si tu l'alimentes en 1.8 V, tu vas fonctionner à une vitesse de processeur maximale qui va être beaucoup plus petite.
Il me semble que l'Arduino faut entre 7 et 12 volts.
Non. L'Arduino, je pense que ça va être entre 3.5 V.
Non, c'est entre 7 et 12, je crois qu'il faut y envoyer. Pas sûr de moi.
Ah bah, faudra vérifier, mais moi ça me paraît bizarre. Enfin bon, on vérifiera. Donc, l'intérêt, donc on a le Launchpad, le FR Launchpad. Donc, forcément, ce sera une architecture, pareil, du MSP430, donc totalement compatible, mais avec une architecture qui est beaucoup plus puissante derrière. Après, il y aura une autre technologie de Texas Instruments avec un processeur qui s'appelle le C2000. Donc, le MSP430, on va être dans les alentours de 15 MHz, voire aller jusqu'à 20-25 MHz. Le C2000, on va être aux alentours de 50-60 MHz. Et ensuite, ils ont sorti récemment une nouvelle formule Launchpad, qui est autour d'un processeur de Texas Instruments sur l'architecture ARM. Donc l'architecture qu'on connaît bien maintenant autour des processeurs. Ouais. Et l'intérêt de cette architecture, c'est qu'elle est basse consommation, comme le MSP430. Donc c'est une technologie ARM, donc un peu plus puissante, qui va être aux alentours 100-150 MHz. Donc on a à peu près toutes les gammes pour pour ceux qui veulent à peu près.
Et juste pour s'y remettre aussi, là, jamais faire des comparaisons, 150 MHz, c'est peut-être sur 1 ou 2.
Oui, mais c'est la comparaison juste en,
oui,
en juste en time, quoi.
L'environnement de développement, c'est
Alors, l'environnement de développement. À la base, étant donné que c'est du Texas Instruments, derrière, t'as des toolkits, des logiciels, des IDE, qui sont du milieu professionnel. C'est le genre, si t'achètes l'environnement complet IAR, nous, au boulot, on l'a acheté, ça coûte entre 1000 et 2000 euros la licence. Donc, clairement, ça n'est pas le public visé du public qui va acheter de l'Arduino. Mais cependant, ils ont été intelligents, ils font une version de l'IAR qui est gratuite jusqu'à une certaine taille de programme que tu peux envoyer en dehors du... Étant donné que le MSP, en fait, bah, t'auras 4 kilo-octets de RAM, bah, la version qu'ils offrent d'IAR permet de façon gratuite de l'utiliser. Sauf que le problème, c'est que c'est les anciens, celles que j'ai là, c'était les anciens modèles de MSP, c'était avec des MSP de base, qui étaient avec 4 kilos de RAM. C'est bien. Ouais. Sauf que maintenant, les nouveaux, ils sont à 16 kilos de RAM. Donc ça a très quadruplé, maintenant IAR, on ne peut plus l'utiliser. Donc, il existe deux méthodes. Soit on fait directement tout en Linux. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont porté la toute chaîne,
ouais.
la chaîne de, enfin, je sais pas comment on dit en français, d'ailleurs. Enfin bon, la toute chaîne GCC. Mmh. Donc, ils l'ont fait pour MSP430. Donc, là, il y a un certain niveau de technicité qui est au-dessus du Arduino. Parce que l'Arduino, il suffit d'installer l'IDE basique et là, on peut,
oui.
peut tout faire.
C'était rien.
Et d'ailleurs, il y a des gens qui utilisent donc l'IDE Arduino et qui avaient envie de faire en sorte que le code qu'ils ont développé pour l'Arduino il soit portable sur le MSP. Donc, de base, il existe un portage de l'IDE Arduino pour le MSP et donc le code que tu utilises, en fait, c'est du code d'Arduino. Donc, tu peux utiliser le code source directement, tout est compatible.
Est-ce que c'est comme l'Arduino, est-ce qu'il y a le bootloader un peu, je veux dire, sur l'Arduino, tu redéveloppes pas tout, quoi. T'as quand même un bootloader, un environnement,
Bah là, tu fais en C, puis t'envoies directement. Tu, ouais, peux. Tu peux, après, ouais, aller trafiquer dans le bootloader, mais tu peux pas avec l'IDE de l'Arduino. Ça, c'est impossible. Il faut passer par GCC, donc il faut être sous Linux. Donc, bah là, je vais montrer, il y a un petit programme qui est chargé sur le MSP qui est là, qui est un fader de LED. Donc, de base, sur la carte, t'as un bouton poussoir, un bouton reset, et t'as deux LED.
Okay.
Et j'ai utilisé l'Arduino,
C'est le PC qui a le micro sur lequel on branche, donc j'ai très peur. C'est juste pour alimenter.
C'est juste, et puis là, comme ça, on peut voir, il y a un fader de LED. Hop, voilà. C'est le clignote, c'est le truc basique. Et ça, c'est code à IDE. Donc, ça, c'est
le Hello World de l'électronique. Hein,
voilà. Et ça, ce code-là, c'est pas le code qu'on allait chercher sur TI. Ça, c'est le code qui vient de site Arduino.
C'est pas du clignotement, là, c'est un fade.
Voilà, c'est un fader.
Ok.
Donc et ça c'est typiquement c'est plus facile de faire un fader avec
Tu dis quoi d'ailleurs dans cette
Bonjour monsieur. T'inquiète pas, tu viens.
Non, mais on est en train d'enregistrer quelque chose, on ne peut pas vous accueillir aujourd'hui.
Vraiment, je suis désolé, on peut vous accueillir un autre jour, mais là bon.
Je vais mettre la grille après. C'est les intrusions, on est dans Rouen, il y a des clochards qui débarquent.
Je suis pas sûr qu'il puisse suivre notre discussion, quoi, tu vois.
Oui, et puis bon, nous aussi on a des bières à la main, mais.
il s'est dit des copains, non.
Ouais, juste là.
Bon, alors, on était où?
J'en étais à. Donc, l'IDE Arduino, donc, complètement compatible. Mmh. Sauf que le problème, c'est que. Si on va dans une optique Arduino, il y aura plus de rétrocompatibilité entre le code MSP et le code Arduino. Ce qui est d'ailleurs, donc je viens sur la différence fondamentale qui existe entre l'Arduino et le MSP, c'est que en fait l'Arduino étant plus pour un public relativement néophyte en électronique, ou alors qui n'est pas forcément un niveau d'expertise, il y a un niveau d'abstraction matérielle. C'est-à-dire qu'on va coder en C avec des codes des bibliothèques, et derrière, tout ce qui est l'IDE, lui, va retranscrire en code machine pour piloter les entrées-sorties et tout ça. Sur le MSP, si on code avec le code du MSP de base, on peut choisir son niveau d'abstraction. Par contre, on peut le faire en assembleur. Là, en assembleur, bon, on va avoir un code qui est super rapide. On va pouvoir choisir exactement la quantité d'octets qu'il voit. On peut le lire en temps réel. Enfin, c'est super. Sauf que, bah, forcément, c'est assez rébarbatif. Ensuite, il y a le niveau au-dessus, en C. Là, en C, en fait, le MSP, il est fait dans une architecture.
Attends, donc... surtout en assembleur, tu vas pouvoir compter ton nombre d'instructions et pouvoir calculer
le le MSP étant au niveau du temps réel, au niveau du noyau assez assez proche, en fait, on peut le faire en C facilement, quoi.
Ah ouais.
Ça, okay. C'est justement là où j'en viens, c'est que l'architecture du MSP se fait avec faut un peu aller creuser pour réussir à le faire en C, parce que faut aller voir l'architecture du processeur, voir que le processeur est fait avec des horloges internes, des timers, des registres. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller carrément écrire à l'intérieur des registres pour dire, par exemple, un port d'entrée-sortie, on va le mettre en entrée et en sortie. On va utiliser une capacité pour capturer un signal, pour faire de la comparaison de signal, pour faire de l'échange de données, ou des choses comme ça. Et ça, dans ce cas-là, on va le faire en C directement. Il n'y a pas besoin, théoriquement, de passer par l'assembleur. Oui. C'est juste que, théoriquement, si t'es, le MSP, ça existe sur des plateformes industriel, voire sur de l'aéronautique ou des choses comme ça, bah là, t'as besoin d'avoir une très grande fiabilité, et là, tu vas le faire en assembleur, quoi. Sauf que
enfin, sans donner d'exemple, top secret pour l'entreprise pour laquelle tu travailles, de prototype, t'as donné des exemples concrets, réalisation là-dessus.
Bah, moi, j'ai l'exemple sur lequel je travaille, en fait, c'est un système qui fait, je vais juste l'évoquer, en tout cas, parce que après, théoriquement, ça sortira jamais. Mon chef, là, on n'entendra jamais, mais bon. C'est un système qui fait, est-ce que vous voyez ce que c'est un réseau RLC?
Non.
En électronique, un réseau RLC, c'est un réseau, ce qu'on appelle une résistance, une inductance, une capacité. Tu les mets en série, tu appliques une tension assez grande, et à partir de cette tension, bah, tu vas avoir une fréquence. Donc, en fait, c'est un système qui va en faire le contraire. On va utiliser comme capacité les capacités, par exemple, d'un mur en béton. Parce qu'un mur en béton, tout est une capacité, avec des électrodes. Et à partir de ça, on va lire une fréquence, et cette fréquence-là, on va lire une tension, et à partir de cette tension-là, on va pouvoir déduire un niveau de capacité du mur. Et à partir de cette capacité-là, il y a un laboratoire qui a fait des travaux, qu'on déduit des formules, qui peuvent déduire la
composition.
La permittivité du matériau. Et la permittivité, c'est la capacité du matériau à absorber ou à laisser passer un certain taux d'humidité. Donc quand tu fais du béton,
mais c'est du pointu, ouais.
Quand tu fais du béton, bah s'il fait pas assez passer l'humidité, bah le béton va être friable et il va pas être capable après d'assurer sa cohésion. S'il fait trop passer l'humidité, bah il va commencer à se réduire et puis il va plus avoir assez de cohésion. Et en fait, bah, le but, c'est, quand t'es sur des immeubles, d'être capable avec un appareil portable, d'appliquer sur le mur et de lire la fréquence que tu vois, et d'en déduire si le mur, si là, il y aura, par exemple, une cavité, en fonction de ce que tu lis, ou alors de savoir s'il y a trop d'humidité ou pas assez.
C'est vachement intéressant.
Et en fait, le MSP, c'est la base où on fait, t'as un système en Bluetooth, et connecté à une tablette en Android. T'as un système avec un circuit électronique derrière qui va lire une fréquence à partir de ce réseau RLC. Ça, on les envoie sur les entrées-sorties du MSP. Le MSP, derrière, t'as un truc qui va lire la fréquence, tout ça, parce que c'est, en fait, le circuit a été fait. Ça, je sais pas comment il a été fait, mais tu vois, moi, j'ai juste une fréquence carrée. Donc je lis cette fréquence et tout. À partir de cette fréquence-là, moi j'ai un système qui va lancer une boucle en Bluetooth et le logiciel en Android, il va se connecter sur ce serveur et dès qu'il est connecté, il lit et voilà.
En fait, pourquoi est-ce qu'on se marrait tout à l'heure quand tu disais Android, c'est que putain on voit ce qu'ils sont passés ces putains d'afficheurs à segments, quoi.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça passait dans les smartphones.
Maintenant, dès que tu fais un truc même technique, même très spécialisé, il faut que ça passe par du Android, il faut que ça passe par du iOS. Sérieusement, ça me bourre.
C'est pas mal. Nous, Android, on en revient, mais ce qui est intéressant avec Android, c'est que t'as une tablette. La tablette, tu mets le logiciel que tu veux. Après, le client, t'as pas besoin d'envoyer quelqu'un pour réparer ou quoi que ce soit. C'est juste, ta tablette, elle est cassée. T'en rajoutes une. tu remets le logiciel dessus, puis basta. Voilà. Allez hop.
Ouais, voilà.
Ah bah.
Moi, j'ai encore pas mal de matériel.
Parce que, par exemple, du matériel comme ça, très électronique, où t'as pas justement ce niveau d'abstraction, bah, c'est le genre de matériel. Si jamais t'as un dépannage, faut que quelqu'un se déplace. Mmh. Tu peux pas t'écrire en téléphone en disant, ouais, il y a ça qui, bon bah, ouais. Bon bah, j'arrive. Et quand le truc, il est à l'autre bout de la France, bah, c'est pas facile de se déplacer parce que nous, on a un service qui est pratiquement spécialisé. On est pratiquement les seuls en France à faire ce truc-là. Donc,
Oh, ouais, c'est sûr.
Il y a des fois, Mais moi, bon, en même temps, on brûle encore
bien. J'aime bien les affiches sur RC.
Ah, mais.
Mais dernièrement, moi, j'ai dû réparer l'horloge à cristaux, enfin, l'horloge, la vieille horloge de l'endroit où je travaille, hein, donc c'est l'horloge qui est en haut, un peu comme une horloge de gare.
Ouais.
Qui marche avec, alors, je suis bien notice technique de grand large de la carte, en fait. Donc c'est un truc qui capte des sons de, pas de Radio France, mais un truc comme ça, pour trouver l'heure, et qui envoie des signaux dans le 220, hein, carrément, à l'horloge, pour qu'elle se remette à l'heure en fonction du truc, quoi.
Ah ouais.
Et donc la fiche à cristaux liquides, honnêtement, sur tous les boutons, etc., j'ai quand même regretté, tu sais, l'interface est minimale, quoi, mais t'as plein de paramétrages à faire. Ouais. T'as deux boutons, un afficheur à cristaux liquides pour tout paramétrer, mais c'est horrible. Voilà. Parce que tu pouvais paramétrer qu'il y ait plusieurs horloges, etc., enfin des sonneries d'école, parce que c'est un peu le principe. Enfin, ouais. Ouais. Ça, parfois, là, j'aurais bien aimé avoir un Android pour en faire un peu, puis ça l'apparaît.
Ouais, mais en même temps, Android, tu vois, on dort bien, parce que moi, j'ai eu des gros problèmes de développement sur Android, parce que, par exemple, la pile Bluetooth, elle est minimaliste, limite pourrie. Encore, la pile Bluetooth, la pire pile Bluetooth possible, c'est celle sous Windows. Sous Windows, c'est en gros, en fonction de la marque de la clé, bah, en fait, une fois sur deux, ça va pas marcher. Il va pas réussir à lire, ou alors il va pas réussir à faire la...
Je crois que c'est partout pareil.
Bah, en gros, non, parce que par exemple, il y a une solution qu'on a commencé à amener, c'est, il existe une boîte chinoise, donc attention, mais en même temps, c'est un peu le leader sur leur marché, c'est Blue Soleil. Mmh. En gros, ils font eux-mêmes leur propre pile Bluetooth. Et c'est un logiciel, tu viens l'installer sur Windows, ça fait une surcouche par rapport à la pile Bluetooth Windows qui est toute pourrie. Et franchement, il y a eu plein de problèmes avec certaines clés, par exemple, un truc tout con, c'était des clés Bluetooth pratiquement, tu vois, à l'extérieur, exactement les mêmes, quoi. La même marque, le même fonctionnement et tout ça. Sauf que dedans, bah, le matériel, derrière la puce qui fait le truc, c'est pas le même. Toi, tu sais pas ce qu'il y a quand t'achètes parce que c'est marqué nulle part.
Oui,
et en gros, bah, la pile Bluetooth sur Microsoft, soit elle est compatible, soit elle est à moitié compatible, soit elle est rien du tout. Et bah, avec le truc Blue Soleil, ça marche.
J'ai pas suivi, mais il y a différentes versions du Bluetooth, ça.
Oui, alors justement, ça c'est.
Le genre de techno que je.
Alors, le Bluetooth, c'est une technologie fourre-tout où c'est des constructeurs qui se sont mis ensemble, sauf que chacun a fait un peu ce qu'il voulait. Et en gros, c'est un bordel innommable et. En gros, à partir de Bluetooth 3, ça commence à être relativement normalisé, à être relativement rétro-compatible entre eux et tout ça. Sauf que le problème, c'est que là, on est à Bluetooth 4, qui a été, en fait, Bluetooth 4, c'est le Bluetooth 3 un petit peu amélioré, et surtout, ils mettent en place ce qu'ils appellent le Bluetooth low energy. En gros, le Bluetooth low energy, c'est un Bluetooth qui consomme très peu d'énergie quand tu l'utilises avec le bon matériel. Donc, magique, avec le MSP430, tata, ça marche bien. Parce que t'as tout un truc qui est tout, qui est du début à la fin, basse consommation, quoi. Mais, en fait, le Bluetooth 4, le problème, c'est que les couches les plus hautes de Bluetooth 4, c'est pas compatible avec les anciennes couches Bluetooth 2, quoi. Donc, c'est merde pas possible.
On passe au sujet suivant. Moebius, il va être pas content, mais il est en train de coder son truc,
Oh non, voilà. Alors, j'ai fait une grosse connerie aujourd'hui, c'est que,
T'as pas installé Lego?
Non, Lego, c'est autre chose. Alors, ouais, Lilo, il fallait que je l'installe avec les bons paramètres. Une fois Debian installé, le client léger considérait que ma clé USB d'installation, c'était SDA1 et mon système SDB.
Oui, enfin, c'est le tout
bref. Et donc il m'avait pas configuré Lilo correctement, donc il a fallu que je shroot, et puis depuis j'ai fait une mise à jour de Lilo, ça a merdé, j'ai re-shrooté, enfin bref, c'était le bordel.
Bon, sinon le sujet,
sinon, c'est réglé. Ouais.
C'était ton ébauche de mallette Greyman, Mailing Grey.
Ouais, voilà, donc les Mailing Grey, c'est des Allemands qui... Bah, oui, ils sont allés pas mal au Chaos Computer Club. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit deux choses, entre autres, une mallette pour intercepter des informations sur les réseaux Wi-Fi non protégés, avec donc un écran dessus qui affichait les tweets, les messages privés Facebook, les images que tu regardais sur tel ou tel site web, enfin. Ils allaient même jusque.
Alors, je ne sais pas si la. Enfin, on voit la vidéo de France, je me demandais si c'était un proof of concept ou s'ils avaient vraiment fait.
Ah, mais oui, ils l'ont fait, oui. Oui, non, t'as, la vidéo, tu te balades avec eux, ils te montrent tout. Et donc, ils allaient jusque craquer les accès SMB, sans bas, de Windows pour aller récupérer les données sur le disque dur. Pourquoi pas.
Je ne sais pas si ça se fait que là, si on laisse.
Si, si, si. C'est bourré de. C'est bourré de merde. Bourré de. Je ne vais pas aller dans les détails, mais.
C'est Microsoft.
Voilà.
Voilà.
Donc bref, je voulais. En fait, je voulais faire ça, mais aussi avec l'idée que j'avais développée la dernière fois avec SSL Strip et SSL Sniff. Bah vous regardez, vous écouterez le podcast précédent, si ça vous intéresse. Donc vous cherchez sur Google dessus. Et grosso modo, je voulais faire cette manette-là, mais en plus avec l'exploitation des failles sur SSL et très largement sur Internet Explorer et Safari. Donc voilà, il me faut... Donc, j'ouvre la boîte,
ouais.
Parce que j'ai un appel d'information à donner. Donc, on est sur du...
Donc une boîte avec une antenne Wi-Fi fabriquée...
Ouais, bah c'est un client léger.
Ouais, j'ai fait une connerie, j'ai oublié le truc. Je... Voilà.
J'ai oublié mon antenne. Mais ça marche pas mal. C'est le Lithium 4030 avec une carte mère qui est TR3540. Et donc, il me faut les spécifications de cette carte mère pour pouvoir remplacer le bloc d'alimentation par une batterie. Il me semble que cette alimentation, enfin, cette carte mère utilise. Plusieurs plus, et donc, c'est toi l'électronicien, tu me diras, il me semble qu'il y a une gestion dynamique de l'alimentation sur ce truc, donc j'aimerais bien savoir quoi. Tu penses qu'avec un voltmètre ça va le faire?
Ouais, sans aller jusqu'au voltmètre, on peut déjà l'éteindre, le débrancher, et puis regarder l'alimentation d'elle-même.
Ouais.
Parce que ça doit être du matériel qu'ils ont assemblé à part, et puis il doit peut-être avoir la spécification de l'alimentation d'elle-même.
Ouais, mais j'arrive pas à trouver de.
Bah, il va falloir
prendre le tour de vis.
Non, mais si bien en dessous, il va falloir tout démonter et puis faire du tour de vis.
Ok, bon, bah je ferai ça. Donc voilà, ce que je voulais c'était afficher, puis éventuellement aussi avoir un haut-parleur qui déclame carrément les.
Voilà, et tu voulais pas utiliser un truc tout fait, tu voulais vraiment scripter quand même la perception
claquée. Ouais, voilà, parce que. Parce que SSL Strip et SSL Sniff ils ont été codés en Python, et moi je vais plutôt utiliser la librairie PCAP pour avoir plus de performance, quoi, parce que c'est sur batterie, le pauvre garçon il va pas.
Ça me fait penser sur un film que j'ai vu récemment où c'est dans le futur, et puis le mec il est capable d'intercepter les messages, et en fait de les détourner et ensuite de les renvoyer en ayant modifié le message d'origine.
Bah avec PKP tu peux le faire, tu peux scripter.
Ouais, mais en temps réel, je sais pas si.
Ah si, en temps réel, une fois que t'es pas chiffré.
Ouais,
tu vas modifier
le message. Ouais, si c'est pas chiffré, ouais, c'est clair.
Ouais. The man in the middle.
Ce serait marrant en fait, faudrait prendre les messages en otage. Tu sais, tu récupères le message et tu dis, tu renvoies un message en disant, un tel vous a envoyé un message, si vous voulez le récupérer, donnez-moi un temps. Voilà un compte PayPal.
Attends, machiavélique, moi j'étais pas allé jusqu'à là. C'est une idée là.
Mais il y a trouvé un moyen de monétiser ton idée, voilà. Je sais pas si c'est très honnête, mais voilà.
C'était le sujet qu'on a rajouté tout à l'heure et qu'on n'a pas mis au truc, c'était tout monétiser.
Oui, finalement, on l'a pas mis.
Tout se monétise.
Et je voulais conclure ce podcast par un peu d'actualité du web, c'est l'IGN qui a eu, c'est juste l'information sur l'IGN qui a eu une demande, on leur a demandé de, s'il vous plaît, libérer leurs données. Donc l'IGN c'est l'Institut Géographique National qui a toutes les cartes, etc. Enfin, un peu un Google Maps mais à la française et avec, comment dire. Mais c'est vrai qu'ils ont toutes les photos satellites, ils ont plein d'informations sur le canal.
Attends, l'IGN, c'est...
Oui, c'est énorme, oui, oui.
Ah oui, c'est... Et puis c'est de la qualité, ils font depuis les années 60-70, ils font ce que Google commence à peine à faire aujourd'hui, quoi. Donc, c'est la classe au-dessus, hein.
Je dirais pas jusque-là, parce que Google a su...
Bah, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour ce qui est de rendre les données, d'avoir un certain niveau de technicité.
Oui, oui, je pense qu'il y a un niveau de précision.
Voilà, au niveau de précision, technicité, ouais. Au niveau des techniques utilisées pour faire les mesures, du suivi de ces mesures, de la qualité, tout ça, l'hygiène.
Oui, l'hygiène a développé des techniques de cartographie
Après, moi, je sais pas, je suis pas un expert, je vais pas te citer de trucs. Je sais qu'il existe beaucoup de techniques qui existent pour quadriller, pour faire de la cartographie ou des choses comme ça, qui ont été développées par l'hygiène. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'hygiène, ils ont essayé il y a quelques années de se mettre sur le créneau, ils ont créé leur propre site de carte.
Géoportail.
Voilà, Géoportail. En gros, c'était le Google Map à la française. Bon, c'est bien, mais c'est pas du tout ergonomique.
Oui, il est
pas
sur le ça.
Et derrière, ils avaient pas la capacité de faire des portails gigantesques. Mais voilà, quoi, c'est clair que.
Bon, tout ça pour en revenir, qu'il y a eu une demande à l'IGN de libérer les données, l'IGN a répondu, les données sont accessibles gratuitement. Donc il y a une confusion entre le logiciel libre et gratuité. Donc elles sont accessibles gratuitement, mais seulement en mode passif, et via leurs outils à eux. Mais de ces données-là, t'as pas le droit d'en faire des applications, etc. T'as juste le droit de les consulter. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage, parce que c'est vrai que c'est des données-là où on pourrait imaginer des applications assez folles et... Donc voilà, l'IGN est un institut national et il se garde le monopole de leur production. C'est ça le coup de gueule.
Ah bah. C'est de la mauvaise foi, j'ai l'impression.
Ça dit sur les sous, mais je pense que tu penses ça aussi.
Ah oui, le problème c'est que tu demandes à Google ou avant que Google, toutes les cartes qui étaient faites, tu voyais le petit truc Atlas, Voilà, ce que je veux dire, c'est que derrière, ils font pas ça de façon philanthropique, ils ont du fric. Moi, je trouve que l'IGN, derrière, ils ont un mérite d'exister, c'est qu'ils n'ont pas forcément la même clientèle que Google, et je vois pas pourquoi ils seraient obligés de libérer ce qu'ils ont fait en sachant que à un certain niveau...
C'est un truc à mot national dans le... Voilà.
Oui, mais le problème,
c'est... Et à mon avis, ils financent tout seul, mais bon, il y a quand même
C'est ça.
Ça appartient pas à tout le monde.
Moi, idéalement, il faudrait que ça soit libéré. Mais je dis, c'est que avant de demander à ce qu'il y ait une libération, il faudrait peut-être soi-même réfléchir à pouvoir demander quelque chose qui est réaliste. Et tu peux pas demander s'il vous plaît, vous pouvez libérer vos données. Non, c'est plutôt nous on a réfléchi dans notre coin et puis on se dit que si vous faites ça, ça ou ça, c'est possible. Qu'est-ce qui vous en empêche? Et dans ce cas-là, moi, je trouve que si tu leur présentes un truc avec des points et que eux, derrière, ils te présentent de la merde, alors c'est que soit eux, ils sont incompétents dans le domaine que t'amènes, soit c'est clairement de la mauvaise foi derrière pour pas te bien les donner. Ben après, voilà, c'est ça.
Waouh! Moebius est en train de nous afficher sa clé GPG.
Son logo, sauf qu'il n'arrive pas à l'afficher sur
sa page. J'ai pas d'appareil photo là pour prendre la photo pour la poster.
Non, c'est moche.
Bon, on dit au revoir aux auditeurs du podcast.
Juste un truc.
Ouais.
Alors, c'est pour faire une minute de geek. En ce moment, sur Rouen, toutes les bibliothèques de Rouen ils organisent un mouvement autour des comics. Voilà. Et donc il y a depuis le mois de janvier jusqu'à la fin mars, ils font des rétrospectives, des expositions autour de thèmes. Donc là en ce moment c'est des expositions d'un comics masqué démasqué autour du concept du super-héros à la française. Et c'est fait l'intérêt c'est que c'est fait par un dessinateur qui est de Rouen. Pas le dessinateur, c'est l'encreur. Et là, ce week-end, il était là à Saint-Zère, à la bibliothèque de Saint-Zère, pour présenter ses planches et puis permettre à tout un chacun de discuter avec lui. Donc c'était vraiment très intéressant. Et il y a la bibliothèque Simone de Beauvoir. En ce moment, c'est une exposition sur un photographe qui est allé aux États-Unis et qui a fait un reportage sur les super-héros du réel. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les États-Unis, c'est un mouvement qui est apparu. En fait, c'est des mecs qui se déguisent en vrais super-héros. Sauf que forcément, ils vont pas combattre le crime ou quoi que ce soit. La plupart du temps, en fait, c'est des gens qui font ça dans un but d'avoir une action sociale derrière. Parce qu'aux États-Unis, en fait, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a rien. Mais en gros, toutes les initiatives sociales, ça vient, c'est les initiatives du privé. En gros, bah, la plupart du temps, c'est des gens qui se retrouvent à se masquer ou à faire comme ça pour que leurs actions aient un poids plus grand. Quoi.
Moi, j'avais bien aimé Super-Héros qui se déguisait en Superman, un vélo, et qui s'amusait à faire flasher les radars.
Ah oui, ça, mais il était du con, en plus.
Mais je me demande s'il s'était pas fait choper.
Oui, bah, il s'est fait, là, en fait, il s'était fait choper plusieurs fois, mais, comme il était à vélo, ils avaient pas pu le mettre d'avant. Sauf qu'apparemment, ils ont trouvé une, et finalement, il a eu de la mort, donc, je sais plus quoi.
Bien d'user l'électricité des radars automatiques. Ouais. Voilà. Et, juste pour y revenir, puisque peut-être que nos auditeurs n'ont pas la chance d'être à Rouen, on a un réseau de bibliothèques, moi j'en profite pas, mais qui est pas mal animé, quand même.
Ouais, il est pas mal animé. Et donc, dommage qu'il n'y a pas assez de bouquins d'informatique et d'électronique.
Ouais, j'y vais pas assez souvent pour
le faire. Moi, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai regardé dans les bases de données, j'ai regardé ce qu'il y avait en collection. J'ai rien trouvé de très intéressant.
Et donc, pour finir, donc en ce moment, il y a ces deux expositions. Mmh. Et d'ailleurs, ce week-end, donc, il y avait l'exposition commentée par le dessinateur Julien Le Godard. Et il y avait aussi un truc, c'était... ils avaient demandé au rédacteur en chef d'un périodique sur les comics de venir pour tenir un truc sur le féminisme dans la BD. Donc dans le comics, c'était un peu le truc un peu gadget pour faire parler, mais bon, c'était assez intéressant quand même. Et ça a permis d'amener du monde, quoi, donc pour moi c'est intéressant. Et là, à la fin du mois de mars, il va y avoir aussi un truc intéressant pour ceux qui y sont intéressés par les comics, mais aussi pour tout ce qui est au niveau de la censure, parce qu'il va y avoir un film qui est assez connu, qui est Marvel 14. Que dans les années 60-70, il y a eu des adaptations françaises des comics américains, et c'était les éditions mythiques Lug Scénic. Donc à l'époque, c'était plutôt Lug. Et ils avaient des recueils qui étaient les publications américaines francisées.
Je sens qu'on va rajouter une chronique à ce podcast. La chronique que j'ai avec Moebius, on va avoir la chronique BD là. Je le sens.
Moi, en BD, je suis fan.
Chaque semaine, quand tu seras là, on va faire un truc sur moi.
Et puis électronique, moi, ça m'intéresse.
Oui, moi, je ne pas beaucoup, mais pareil. Oui.
Et donc, pour finir, ce truc-là, c'est les premières séries qu'ils ont fait. Lug Scénic dans les années 60-70, c'était Marvel et Fantasque. Et en gros, il y a eu un vrai combat. Ces périodiques ont été interdits par la censure française. En disant que c'était des vilains trucs américains qui allaient pervertir la jeunesse, la bonne jeunesse française.
C'était quand même nos alliés, les Américains. Enfin,
dans ces années-là, c'était les grands vilains qui vont pervertir la jeunesse. Bon. Mm-hmm. Passons. Et en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est que ces deux périodiques, ils ont été torpillés par les différents systèmes de censure. Où en gros, bah, dès qu'ils faisaient un numéro, il y avait toujours des comités de censure qui leur disaient « Non, vous pouvez pas mettre ça, vous pouvez pas faire ça. » Enfin, ils empêchaient de travailler. Et au final, bah, ils ont baissé les bras et ces deux numéros sont jamais sortis. Et il y a notamment un numéro mythique de la série Marvel, qui est le Marvel 14, qui n'est jamais paru parce que, en gros, la censure a bloqué. Et ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit tous les acteurs de l'époque qui nous donnent leur ressenti. On voit bien que bah, la censure, c'était pas que aux États-Unis, c'était pas que dans les pays d'Union soviétique ou quoi que ce soit, que la censure, ça existe dans tous les pays. Ouais. Donc, voilà.
Surtout en France à l'époque, en plus.
Je vous écris une lettre que vous irez peut-être si vous avez le temps. C'était Boris Vian, je crois, qui chantait le déserteur, hein, c'est comme ça qu'elle était censurée.
Ah oui, tiens, ouais. 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 Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, ça.
Ouais, mais c'est pas très bien. non, c'est le genre de truc que t'as mieux étudié, mais après, c'est... Ouais. J'ai du mal, moi, Boris Vian.
Bon, non, si, il y a des morceaux qui sont marrants dans Boris Vian. Putain, ça va me revenir un jour.
Il va se réveiller ce soir, cette nuit, à 6h du matin. Putain, ça y est, je l'ai.
Non, mais en même temps, ça permet de prouver qu'on n'écrit pas les podcasts. Là. Et qu'on est en train de faire des feuilles. Hein. Ouais. Bon, je dis au revoir aux auditeurs.
Salut les auditeurs.
À la semaine prochaine, peut-être, ou à la semaine d'après, on verra. En fonction du rythme.
Ouais, et puis file un coup de main, mon enfoiré. Venez sur le wiki, discuter sur IRC, et puis tout ça.
Oui, c'est vrai qu'on a l'IRC, j'aime bien que, où je suis pas très souvent, mais j'ai le mérite d'y passer dans mon temps, quand même.
Faut y rester.
Mais News, il les donne tout le temps.
Je l'ai supprimé.
D'accord.
Parce que,
personne
n'y allait. Non, il n'est pas utilisé.
Mais on peut-être le remettre et ça reprendra après. Après, si vous voulez, je mets sur un serveur dédié sur Internet, là, si tu veux. Ouais, on est obligé que tu rejoignes l'aquarium.
Bah non, mais moi le problème c'est que en fait, moi je sais qu'il existe et bon, j'y suis jamais allé parce que il n'y avait pas de truc, mais maintenant qu'on commence à avoir un peu d'anxiété, ça va peut-être maintenant qu'il va peut-être être utilisé, c'est ça que je veux dire. Oui, au début, c'était peut-être un peu tôt, quoi. Et aussi, c'est ça que je veux en dire.
C'est vrai que c'est le genre de truc qui, ouais, n'est pas utilisé.
Moi, un truc que j'aime pas sur le wiki, sur les wikis en général,
c'est la syntaxe.
Non, c'est que un wiki, il n'y a pas de, pour moi, c'est assez fouillis, on n'arrive pas à savoir d'index, avoir un bon index bien clair et tout ça.
Bah, si, là, j'ai fait les choses, j'ai fait les choses assez proprement pour que, justement,
t'es. Oui, je vais demander la catégorie des catégories. Parce que moi je sais pas naviguer sur Wiki, j'ai pas l'habitude.
Bah voilà, pas non plus.
T'as la catégorie projet, t'as la catégorie modèle.
Ouais.
T'as quoi déjà, ça fait longtemps que j'ai pas. Bref, c'est assez bien organisé si tu veux ajouter des catégories en plus.
Bah, il faut encore que je fasse mon truc là sur ce que j'avais présenté l'autre fois.
Après, s'il y en a qui veulent écrire sur le site, plus Method Blood, sur le site des blogs, enfin du podcast, vous pouvez aussi, hein, je fais des antifiens, il y a pas de problème. Je ne t'empêche pas de faire doublon hein, sur le wiki, sur ce que
tu as dit, on avait dit au revoir.
Oui, on avait dit au revoir.
Au revoir.
Le vrai.